Pierre Poirendès, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes un des scénaristes avec Denis Lapierre d'une série BD actuellement qui vient de sortir aux éditions Dupuis, U4. Le 31 août 2015 sortait une série de romans post-apocalyptique où il était question d'un virus appelé U4, U pour Utrecht aux Pays-Bas et 4 pour 4e génération. À quel moment avez-vous eu l'idée d'aller capter cette idée-là et finalement d'en faire une BD ?
Alors l'idée ne vient pas de nous, elle ne vient pas de Denis et moi, c'est plutôt les éditeurs d'abord du roman qui cherchaient une possibilité d'adaptation. Et puis, ils sont venus vers Dupuis et notre éditrice, Laurence Van Tricht, qui a édité la série Alter Ego, a tout de suite pensé à Denis et moi, puisque Alter Ego fonctionnait sur un principe de narration puzzle avec des albums qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Mm-hmm. Et qu'ici, avec le projet de U4, les romans fonctionnaient de la même manière, en fait. C'est-à-dire qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Ils ne sont pas numérotés.
Et le... Il n'y a pas eu de réticence de la part des auteurs de romans, ni de Nathan, pour le citer, l'éditeur de ces romans, pour en arriver à cette adaptation BD.
Mais Nathan était demandeur, les auteurs a priori aussi. Après, c'est vrai que nous, on a lu les romans, on a regardé si ça nous donner de la matière, si ça nous plaisait. Et on leur a proposé un certain type d'adaptation en disant, voilà, nous, on voudrait faire une adaptation de ce type-là. Ça demande que vous nous laissiez vraiment une grande liberté, qu'on puisse, vraiment élaguer tout ce qui a besoin d'être élagué pour une version bande dessinée, de notre point de vue. Et aussi, ce principe de changer un petit peu la configuration en créant un cinquième album unique, qui n'était pas le principe de la bande, des romans. Dans les romans, c'était des romans qui allaient chacun jusqu'à leur terme. Et là, nous, on a proposé qu'en fait, les albums adaptent, on va dire, les deux tiers ou les trois quarts de chacun des romans, et puis que la fin soit unique dans un cinquième album qui réunit toutes les trames et tous les fils narratifs.
Est-ce qu'il y avait déjà un côté visuel, dire cinématographique dans les romans, ou est-ce qu'au contraire, c'est votre grosse part de contribution à U4
Bon, c'est un univers post-apocalyptique, donc, c'est-à-dire un univers ravagé avec, les 90% de la population sont dévastées. Donc, c'est tout de suite, ça crée des situations tout de suite assez visuelles. Mais c'est vrai qu'on a renforcé on pense beaucoup plus au décor et à la variété des décors quand on fait une adaptation qui implique l'image. Et donc là, on s'est inspiré de pas mal des lieux qui étaient suggérés, mais on en a aussi créé d'autres pour que, notamment... Voilà, dans le cinquième album, on a qui n'est pas encore sorti.
Chronos.
Voilà, la fin est un peu différente au niveau des décors qu'on a impliqués, en tout cas pour un des personnages. Mais je ne veux pas spoiler. Donc,
vous aviez déjà travaillé en fait avec les éditions Dupuis pour Alter Ego, où là aussi c'était ce système. Donc, comme vous expliquiez, multiples portes et à la limite, on pouvait commencer par n'importe quel des ouvrages. Est-ce qu'il faut, comme éditeur, être courageux, inconscient, pour se lancer dans un ouvrage post-apocalyptique en cette période quand même de pandémie?
Ah, je crois que la question porterait sur le courage de se lancer sur une série où on décide d'emblée d'écrire 4 albums sans voir si ça va marcher ou pas.
C'est déjà une marque de confiance
qu'un éditeur fait en disant, et pour Alter Ego, ils avaient déjà fait ça aussi, on se lance dans 6 albums ou dans 4 albums qu'on va faire paraître en même temps. Parce qu'en général, malgré tout, l'éditeur, il fait...
Paris, quand même.
Oui, mais souvent, il dit, bon, OK pour le premier, et tu peux commencer le deuxième. Mais si après le premier, ça marche pas, c'est pas garanti qu'on fera un troisième album de ta série. Là, effectivement, il faut convaincre. Mais chez Dupuis, ils sont partants pour faire des coups un petit peu comme ça, qui en même temps font sortir du lot. Donc c'est une confiance et c'est un défi, c'est un challenge. Alors quant au fait de parler de pandémie, il faut bien dire que aussi bien les romans que même le projet bande dessinée sont bien antérieurs à l'explosion de l'épidémie de Covid. Donc on ne savait pas quand on a commencé ce projet que ça serait rejoint par une actualité.
Une triste réalité.
Oui, enfin elle est triste, mais elle est quand même beaucoup beaucoup moins triste que celle qui est décrite dans les romans, puisque dans les romans l'épidémie l'épidémie est vachement plus meurtrière et beaucoup plus dangereuse que celle à laquelle on est confronté, sans vouloir la minimiser évidemment, mais c'est un autre contexte. Mais voilà, on s'est demandé, tiens, est-ce que les lecteurs auront envie de lire une histoire de pandémie ou pas? Visiblement, ça n'est pas un obstacle et peut-être que ça nous sert peut-être aussi un peu, mais bon, c'était pas calculé de toute façon, voilà.
Et vous auriez pu éventuellement faire marche arrière, enfin Dupuis aurait pu dire, voilà, ça, on est en train de s'emballer ici et on arrête les frais, mais non, vous avez été quand même jusqu'au bout.
Oui, parce que je crois pas qu'on aurait pu, on était déjà très loin dans le projet. Et il vaut mieux à ce moment-là faire le pari que ça va marcher, surtout que voilà, c'est toujours impossible de savoir si le fait de traiter d'un sujet qui est d'actualité va aider ou va être desservi par l'actualité. On peut pas le savoir d'avance. Nous, ce qui s'est passé, c'est que cette épidémie a effectivement retardé la sortie d'une année. Normalement, le projet aurait dû sortir un an plus tôt. En tout cas, les quatre premiers albums. Mais c'est un avantage pour le lecteur, c'est que du coup, le cinquième, on a eu le temps de le faire et qu'il va sortir dans la foulée, beaucoup plus vite. Et comme il est très attendu, on peut annoncer qu'il sera là dans quelques mois, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas si on était sorti un an plus tôt. On aurait peut-être dû attendre là un an ou quelque chose comme ça.
C'est vrai que finalement, le problème de la contamination, de la pandémie, est un sujet qui a l'air de plaire, notamment au niveau cinéma. J'ai relevé... notamment, il y a Alerte avec Dustin Hoffman, il y a Contagion avec Matt Damon, il y a Phénomène avec Mark Wahlberg, il y a World War Z avec Brad Pitt en 2013, la série Walking Dead. C'est vrai que c'est un sujet qui a l'air de passionner le public quand même. Ça. Vous vous rendez compte qu'il y avait un tel intérêt? Enfin, je suppose, est-ce qu'il y a une sorte d'étude de marché pour voir un petit peu si ça plaît, si c'est dans l'air du temps ou...
Mais forcément, les idées qui sont dans l'air du temps, c'est pas pour rien qu'elles y sont. Et en fait, c'est aussi les auteurs qui les captent. Et donc, le fait est que la série de romans a bien marché. En 2015-2017, elle a plutôt cartonné chez les ados. Bon, c'est pas Harry Potter, mais quand même, ça fait vraiment des chouettes chiffres. D'ailleurs, c'est pour ça que l'éditeur a voulu en faire une BD aussi. Je pense que la problématique de la pandémie, elle est dans l'inconscient collectif depuis longtemps, quand même. Ça fait partie de notre histoire. Ceux qui apprennent un peu l'histoire savent qu'on a eu des épidémies énormes de peste, de grippe, et que ça revient de façon récurrente. C'est annoncé par les scientifiques. On nous a dit c'est fatal, ça va arriver. On sait que ça arrivera encore. Donc... dans les fins du monde possibles, il y a les météorites, comme dans le Look-Up ou dans Armageddon. Il y a parce qu'elles sont déjà venues aussi, les météorites. Bon, on n'était pas là, heureusement. Mais les épidémies, les pandémies, elles font partie de la chose. Donc il ne faut pas une imagination extrêmement développée pour imaginer ce que ça pourrait faire. Enfin, en tout cas, que ça pourrait survenir. Donc oui, c'est dans l'inconscient collectif. Ça fait partie de nos grandes peurs. Et du coup, oui, ça fonctionne, c'est toujours dans l'air du temps.
Ou fais-moi peur, quoi.
Bah oui, on réfléchit à qu'est-ce qu'on ferait si ça arriverait. Si ça arrivait, comment on réagirait. Voilà.
On parlait cinéma, mais vous avez aussi une autre casquette. En 1992, vous sortiez en tant que coproducteur et co-réalisateur. Les Sept Péchés Capitaux, donc c'était un collectif, et vous aviez d'ailleurs déjà réalisé La Tendresse, un des épisodes, avec aussi, j'ai retrouvé dans les noms, il y a Frédéric Fontaine, enfin vous êtes quand même un peu tous toujours restés dans le milieu, c'était une aventure que vous ne regrettez pas, je suppose, puisque quand même vous l'avez poursuivi par après, quoi, donc... Vous veniez quand même de l'IAD, quand même.
Oui, je suis sorti de l'IAD en 89 avec une promotion un peu particulière où on a créé une maison de production en sortant, et effectivement on a fait un film collectif comme premier long métrage, et ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, on peut le dire. On a tous un petit peu plus ou moins fait quelques films, certains plus que d'autres, mais on est tous devenus réalisateurs, donc ça c'est une partie de mon activité, des choses que j'ai pu faire. Et puis la bande dessinée est venue se mêler à ça. Mon deuxième long métrage, je l'ai coécrit avec Denis Lapierre.
Comme tout le monde, ouais.
Voilà.
Coproduit et encore par Diana Elbaum.
Comme mon premier film, ouais, ouais. Thomas est amoureux aussi. Ouais. Et donc, oui, voilà, il y a eu tout un. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, ça a été la rencontre avec Denis. Enfin, on s'était rencontrés un peu avant, mais on a eu envie d'écrire un scénario ensemble. De cinéma, et qui a aussi été un scénario de bande dessinée.
Bien sûr, ouais.
Et donc là, j'ai commencé à rentrer dans la on va dire la sphère, la galaxie de bande dessinée. Et puis on a imaginé cette série Alter Ego. Donc voilà, moi je me laisse guider par les idées qui viennent, qui se présentent, et sur la forme, que ça puisse devenir un film, une bande dessinée. Bon, ça m'est pas encore arrivé d'écrire un roman. Peut-être que ça m'arrivera un jour, je sais pas. Voilà, il y a des formes documentaires que j'ai explorées aussi. Mm-hmm. Là, je viens de sortir aussi une série documentaire très particulière qui est disponible sur YouTube et qui n'a vraiment rien à voir avec de la fiction, qui est une série de réflexive sur la crise écologique et sur les racines de cette crise. Ça s'appelle « Des arbres qui marchent ». Voilà, je ne me cantonne pas dans un domaine. J'aime bien de me laisser guider par ce qui surgit, en fait, au niveau créativité et au niveau des opportunités de collaboration qui se présentent.
Pour nous citer, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait également Germain Benetto qui va être... au niveau du dessin, qui avait déjà travaillé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour Michel Vaillant, et qui avait collaboré à Alter Ego aussi, donc aussi de la famille Dupuy au grand complet des Renault.
Oui, c'est vrai qu'avec nos projets de série puzzle, Denis et moi, on a eu le plaisir de mettre aussi le pied à l'étrier à des jeunes dessinateurs, parce que sur des projets comme ceux-là, qui demandent de s'investir beaucoup, on s'est difficilement allé vers des dessinateurs renommés, parce qu'ils ont déjà leurs projets, ils sont pas libres au pied levé comme ça. Et donc c'était Mathieu Reynès et Benjamin Benetto qui avaient été, enfin avec d'autres, mais qui ont participé à la série Alter Ego. Et puis ça fait plaisir aussi de voir Mathieu Reynès qui après a sa propre série Harmonie, un Benjamin Bento qui passe au décor, aux voitures, et qui finit par dessiner complètement du Michel Vaillant, ce qui est quand même et puis voilà, on souhaite la même chose à Adrian Huelva, qui est le dessinateur qui a pris en charge U4, et qui, voilà, c'est son premier gros projet, et pour un gros projet, c'est un gros, et j'espère que, voilà, ça va effectivement faire que son nom ne sera plus longtemps inconnu, quoi.
Ça représente combien de mois de collaboration entre l'idée qui germe et finalement la sortie de ces quatre titres?
Alors, Je crois que c'est entre 2 et 3 ans.
Carrément. Ouais.
Oui, oui. Même l'idée qui germe, peut-être même que... Je crois que c'était en 2018. Et... Oui, à mon avis, ça fait presque 4 ans qu'on a dû être contacté, qu'on a dû lire. Et puis après, bon... Les préliminaires sont toujours longs. Trouver le dessinateur, se dire on fait quelques essais et puis on y va. Mais en tout, globalement, il a dessiné un album en 6 mois, en fait. Chacun de ses albums, qui fait quand même 120 planches, même si c'est un format un peu plus réduit que les planches habituelles, mais bon, je crois que c'est pas un boulot tellement différent. 120 planches en 6 mois, c'est quand même un rythme
assez soutenu.
Sans compter les vacances, quoi. Enfin, je veux dire, il n'en a pas pris beaucoup. Voilà.
Alors, U4. Quatre personnages aussi, quatre experts, comme on dit dans l'ouvrage, une histoire centrale, quatre clés, quatre portes différentes qui finalement vont aboutir à Chronos, qui est quoi ? L'épilogue ?
Oui, Chronos, c'est l'épilogue, c'est tous les fils qui se rassemblent. C'est aussi cette idée, moi ce que j'aime bien dans la narration puzzle, centré, comme dans Alter Ego, c'est centré sur des personnages. Un album égale un personnage. Et j'aime bien explorer ce côté où, en fait, il n'y a pas de héros dans la vie. Il n'y a que des conjonctions d'énergie et de personnages qui se rencontrent. Et qu'en fait, ce qui change le monde, c'est pas une personne qui change le monde. C'est le fait qu'il y a une complémentarité entre l'une qui a un esprit super rationnel, une autre qui est... beaucoup plus dans le spirituel, un qui est dans le regret, un autre qui est dans l'action et dans le quotidien, et chacun avec son côté pragmatique, rationnel, ouvert à l'invisible, etc. Que c'est ça qui fait qu'à un moment, il y a une fin, ou en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour une forme de solution. Et donc, c'est ça le principe. C'est ça le principe du puzzle. C'est pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné de cette complémentarité, de l'intelligence collective, comme on dit, et du fait que. Je pense que nos sociétés sont beaucoup trop malades de l'ego, en fait. Et que tout notre problème vient de l'ego et que chacun cherche à savoir qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Mais la dimension collective et se poser la question de savoir comment je peux participer, qu'est-ce que j'ai à apporter et de quoi je dois me laisser traverser par quoi, c'est quoi ce que j'ai à accomplir. Alors effectivement, il faut se connaître soi-même pour avoir quelque chose à donner, mais... Voilà. Alors là, j'ai un peu dérivé sur un peu de philosophie, peut-être, etc. Mais pour moi, ça fait partie de l'intérêt qui a... C'est ça qui nourrit ma passion pour écrire des histoires comme celle-là, qui peuvent sembler... Bah, c'est une bonne histoire d'action dans un monde post-apocalyptique, des ados qui doivent survivre, etc. Pour moi, derrière, il y a quelque chose à décoder pour ceux qui sont...
C'est pour ça que ça touche un public très large, de toute façon.
Oui, et ça fait partie de la satisfaction qu'on a, c'est de voir que, a priori, c'est centré vers un public ado, grands ados. Et...
Puisque c'est finalement, bon, on vise des 15-18 qui sont les survivants, mais
en fait, ça nous parle à tous. D'abord parce qu'on a tous été... on est passé par là et on a gardé quelque chose de ça, de cette fougue et de cet endroit... où on se pose aussi beaucoup de questions de sens, en fait, quand on est ado, on se dit, mais c'est quoi, en fait, qu'est-ce que je fous là? Ça veut dire quoi être en vie? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui me connecte à quoi? Et donc, c'est satisfaisant de voir que, visiblement, le lectorat de U4 est bien plus large que celui des ados de 15 à 20 ans, mais que ça... Même voilà, des adultes de notre âge, puisqu'on est de la même génération, nous deux, on est touché quand même par ce genre d'histoire et on peut être passionné, quoi.
Pierre-Paul, un grand merci. Donc on rappelle, les 4 tomes du 4 sont déjà disponibles, surtout aux éditions Dupuy. Et alors, en mai, la grosse surprise, l'épilogue, Chronos. Merci en tout cas.
Merci à vous, Jean.